podcast.
Février 2026, bienvenue à notre épisode du podcast Radar, comme notre habitude avec Olivier Paiement.
Salut les gars!
Ça va bien?
Oui, et toi?
Oui, as-tu encore un engagement aujourd'hui?
Non, je vais être là pour le podcast au complet. Ouais. C'est super bien passé la dernière fois, mon truc de PR.
Bon, tant
ça
mieux.
Ça a duré 15 minutes.
Ça valait la peine?
Ouais.
Tant mieux. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Hugo, en forme?
Salut Deso, ça va bien toi?
Oui, ça va super bien. Puis ça va être le fun que tu sois là au complet parce qu'on a un podcast extrêmement chargé. On n'aura peut-être pas le même rythme de croisière que la semaine passée, mais pas loin, honnêtement, parce qu'il va falloir que ça déboule. Il s'est passé tellement de trucs cette semaine, et je pense que le truc qui a marqué le plus les esprits des gens, ça a été ce match-là extérieur qui a eu lieu quand même, il y a un petit bout, mais il y a tellement de trucs intéressants par rapport au Lightning que ça vaut la peine de commencer par là. Allons-y, les gars, avec ce qui a vraiment frappé l'imaginaire. Le combat entre Andrei Vasilevskiy et Jeremy Swayman. Deuxième combat de gardien en quoi? Quelques jours à peine. Ça a fait en sorte que ça a été un des matchs extérieurs les plus marquants de l'histoire de la Ligue nationale.
Ah ouais, j'espère que les équipes qui vont disputer d'autres matchs extérieurs ont pris des notes là, parce que de A à Z, celui-là, ça a été une réussite. Les costumes avec les gars habillés en Buccaneers ou encore habillés en Patriot ou en Pirate, je sais pas trop.
John Cooper
en pirate.
Mais il y avait aussi des pirates qui étaient là, en tout cas.
Ah, mais ça, c'était la thématique.
Ben voilà, t'avais la patinoire en thématique pirate. Le combat de gardien John Cooper en Tony Montana, une remontée spectaculaire.
Ouais.
J'espère que les autres équipes vont prendre des notes puis que dans les prochaines années aussi, les matchs extérieurs, ils vont avoir un peu de lutte à ça. Ah ouais, on donne un show puis... Ça peut pas arriver à chaque fois, là, mais un petit peu de folie comme ça. Là.
Ouais, thématique Floride pour les matchs extérieurs, mais honnêtement, ça n'a pas déçu. Il y a eu une grande foule aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment cool de voir le spectacle des matchs extérieurs un peu... Ben, en fait, cet affrontement-là, puis moi, personnellement, j'ai trouvé que les deux jerseys étaient super beaux en plus. Ça l'a vraiment juste redonné. On dirait que ça a créé une renaissance pour les matchs extérieurs. J'ai trouvé.
C'est que tu peux pas avoir... Tu sais, si tu prends l'expression de la lutte, puis j'aime ça, tu peux pas avoir... du faux spectacle sur la glace. Ouais. Mais tu peux avoir du crémage partout autour. Mm-hmm. Autour de l'événement en tant que tel.
Mais oui.
Beurre, tu sais, la map autour de la glace, moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant. En fait, ce match-là extérieur avait une saveur rafraîchissante. Et c'est ce qu'on avait besoin du côté de la Ligue nationale.
Oui, parce qu'on est rendu au 67e match extérieur. Exact. Là, comme faut qu'il y ait quelque chose de spécial pour que ça me donne envie d'ouvrir la télé puis de le regarder.
Point que j'ai trouvé intéressant, qui a été amené un peu partout, le moment du match extérieur entre les finales d'association dans la NFL et le Super Bowl. Un trou quand même
un
là.
Un dimanche en plus.
C'est, ouais, c'est plus. Quand même
premier
intéressant.
Dimanche sans football.
C'est parce que là, t'as la classique hivernale qui a été un peu chamboulée par le college.
Ouais.
Là, la NFL s'est mis de la partie pour revenir brimer Noël avec la NBA. T'sais, tranquillement, le football a son empreinte un peu partout.
C'est ça.
Si la NHL peut faire un splash toujours à cet endroit-là de l'année, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Tony Montana et John Cooper, les gars.
Oui, monsieur.
Futur récipiendaire du trophée de Jack Adams.
Ben, on le souhaite, là. Écoute, il mérite tellement avec tout ce qu'il a fait avec le Lightning depuis les dernières années. Le Lightning est encore une puissance cette année, meilleure équipe de la Ligue pour vrai, là. Je veux dire, on doit considérer. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui s'est fait de la part de Julien Brisebois pour être capable de tout le temps amener des joueurs pour faire en sorte que le groupe reste fort. Mais ce que John Cooper est capable de faire avec ces joueurs-là, sérieusement, les gars, ça vaut la peine parce que les résultats sont là. Même s'il y a eu des séquences un peu plus difficiles, c'est tout le temps une conversation pour aller en séries éliminatoires. C'est tout le temps une conversation pour être fort en séries éliminatoires. Faut jamais, jamais considérer le Lightning pour battu. Puis ça, c'est grâce à John Cooper pour la majorité.
Parce que tu sais, l'Avalanche aussi, ils font vraiment bien. Jared Bednar pourrait être en considération. Mais je pense que ce qui différencie la candidature de Cooper, c'est que Lightning a quand même eu beaucoup de blessés. Là. T'as eu Victor Hedman qui a raté une bonne partie de la saison. Il a été remplacé. Ça paraissait même pas, là, par du Darren Radish, du Dastou, du J.J. Moser. Braden Point a manqué énormément d'action aussi. Pour moi, ça ajoute à la candidature de Cooper. Puis si tu vas pas pour lui, il faut que tu ailles pour des gars à Dan News, Patrick Roy, qui prennent une équipe surprenante.
Oui, ça c'est sûr, mais une fois de temps en temps, d'y aller pour l'équipe qui performe puis qui est au sommet, c'est correct aussi. Le Jack Adams, faut pas tout le temps que ce soit pour l'équipe surprise qui réussit à faire les séries. Faut récompenser un coach, puis... Il y a un peu l'aspect de « il l'a jamais gagné ». Et ça, je pense qu'il va avoir de plus de votes pour ça.
T'sais, on s'entend Cooper, là, depuis 12 ans, là, c'est le meilleur coach de la Ligue.
Ben, assurément. Sinon, il ne serait pas sélectionné tout le temps pour les grosses compétitions internationales.
Exact. Puis, ouais. Si tu coaches le Canada, c'est que tu es le meilleur coach à la ligue.
Exact. Exact. Non, vraiment, c'est tout un entraîneur. Cela dit, il y a d'excellents joueurs. Tu as parlé de Darren Radish. Écoutez ça, à ses 15 derniers matchs, 8 buts, 14 passes, plus 8.
C'est impressionnant.
Un défenseur qui sort un peu de nulle part. Soit dit en passant, il joue autonome sans compensation à la fin de l'année.
Hey, il va-tu faire sauter la banque, lui?
Payday, et voilà.
Mais ça va être soit ça, ou soit il va embrasser un peu la mentalité de Marchand, de Bennett, de Ekblad, et qu'il va prendre moins d'argent pour rester dans l'État de la Floride et adhérer à une culture avec le Lightning. Ah, ouais. C'est un ou l'autre.
Parce que là, il est à 51 points en 48 matchs. Les probabilités qu'il reproduise ça sont très, très faibles.
Ouais, exact.
C'est vraiment la chance de sa vie d'aller chercher le gros contrat. Surtout que cet été, les agents libres, c'est pas super reluisant. Ça se peut qu'il soit le candidat numéro 1 le 1er juillet. Ça va être intéressant de voir est-ce que tu prends la voie d'équipe, je prends moins pour la culture, gagner avec Tampa. Le 1er juillet, moi, je m'en fous. Je signe 7 ans, ouais. 8-9 millions de dollars par année. Ce serait possible
ça.
Aussi.
Ça va dépendre du joueur, mais parlant de contrat aussi, quand même assez bénéfique pour le Lightning. J.J. Moser qui a signé un peu plus tôt cette année. Je ne sais pas si vous avez vu les gars, mais lui aussi, c'est quand même une belle surprise à Tampa Bay. J.J. Moser est plus 38.
Un solide défenseur.
Ça, là, c'est fou, là, en ce moment. T'sais, avec l'échange de Sergachev, on sait que c'est un gros morceau qui quitte l'organisation, mais pour vrai, le retour a été super bon. Moser fait la job, mais il était un des préférés à André Tourigny avec les Coyotes. Ça paraît aussi. Son jeu est
incroyable. Vous savez, JJ dans JJ Moser, c'est pourquoi? Prenez un guess.
John, quelque chose.
Honnêtement, vous allez jamais l'avoir.
John Jackson Moser.
Joshua. D'ailleurs, Joshua là-dedans. Non.
C'est Janice Jérôme.
Mais voyons donc. Mais voyons donc.
Son nom, c'est Janice Jérôme Moser.
C'est
comme le joueur du Canadien qui ont pêché LJ Mooney. Là.
C'est Lil Jon.
Lil Jon.
Le rappeur.
C'est cool. Parfait.
C'est vraiment cool.
Ah, c'est bon.
On peut pas parler des prouesses du Lightning en passant sous silence ce qui se passe présentement avec Nikita Kucherov. Écoutez, c'est complètement débile. Kucherov, depuis le 1er janvier, donc depuis qu'on est dans l'année 2026, il a 39 points. 39 points en 15 matchs. On n'est pas loin du 3 points par match en moyenne. Mm. Pas une fois de temps en temps, ici et là, tu vas chercher 3 points. En moyenne, il n'est pas loin du 3 points par match. Il a plus de points que 4 franchises complètes dans la NHL. Le Kraken, les Canucks, les Flames, puis il y en a un autre qui m'échappe. Là. Tu regardes ces franchises-là, il n'y a pas un gars dans cette équipe-là qui a plus que 39 points.
Ouais, c'est fou, ça.
Il vient de mettre son nom dans pour le Hart. On a parlé beaucoup de McDavid, McKinnon, Celebrini. Je viens de regarder les probabilités. Kucherov vient de dépasser Celebrini, il est rendu troisième. Mm-hmm. Ça va être une course vraiment serrée d'ici la fin de l'année parce que il est incroyable, ce gars-là. Puis surtout de faire ça comme ailier aussi.
Ouais, c'est ça. Puis,
il dépend pas d'un centre. Là. Tu le mets avec n'importe qui, Kucherov, il va produire.
Ouais, c'est ça.
Il a tellement l'air nonchalant sur la glace. Il en est frustrant à regarder jouer. Mais
c'est vrai, parce qu'il est tellement bon. Puis finalement, lui, il est comme « je pourrais voir l'autre chose. »
C'est vraiment un travaillant. Là.
À la distillerie, je sais pas.
T'en parles à André Tourigny, qui l'a coaché avec les Huskies ou avec un Julien Brisebois notamment. Puis ils vont le dire, Nikita Kucherov, c'est pas le stéréotype du russe paresseux puis il est juste hyper talentueux. C'est un des gars les plus travaillants aussi au sein de l'équipe, même s'il est rendu à son âge, même s'il a son statut et tout.
Exact. Non, puis ça m'amène à la conversation, les gars. Est-ce que le Lightning de Tampa Bay va ramener sur la table la dynastie qu'ils avaient bâtie dans les dernières années? On s'est fait supplanter par les Panthers.
Ouais.
Les Panthers ont repris le dessus. Il y a eu cette rivalité-là, qu'on reverra d'ailleurs ce soir. Panthers-Lightning, il n'y en a pas manqué ce soir avant la fin des matchs de saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Mais on a été comme un petit peu bousculés. Et je pense qu'on n'a pas aimé ça de voir 3 ans de suite notre rival direct accéder à la Coupe, évidemment, la gagner 2 fois sur 3. Je parierais pas contre le Lightning,
moi non
honnêtement,
plus.
Pour être non seulement l'équipe qui représente l'association de l'Est, mais avoir encore une fois le trophée au bout des bras.
Et connaissant le modus operandi à Julien Brisebois, c'est très possible. Ben, ils vont être acheteurs à la date limite.
C'est sûr.
Faut pas être surpris de les voir faire une bonne acquisition. Ils ont quand même un petit peu d'argent disponible. T'as des contrats que tu pourrais sortir aussi si jamais. Moi, je pense que c'est mes favoris pour la Coupe en ce moment.
J'aurais tendance à dire que moi aussi, c'est mes favoris pour la Coupe parce que dans la centrale, ça va faire tellement mal que je serais même pas surpris que ce soit encore une équipe de la Pacifique qui se rende en finale.
Parce que même là, Vegas, c'est comme bof. Les Oilers aussi. T'as pas d'équipe dominante dans la Pacifique en ce moment.
Non, mais en même temps, t'as juste besoin d'une stretch. Ouais. T'as besoin de bien finir l'année. Les Oilers, l'année passée, à pareille date, ça aurait été la même chose. On a fini en force et finalement, on s'est rendu jusqu'au bout.
Et là, la pause olympique, ça a comme un espèce d'effet couteau à double tranchant. Si t'es une équipe qui avait du momentum, ben ça coupe un petit peu ton momentum. Puis si t'es une équipe qui allait pas bien aussi, ça te donne une chance de repartir à zéro. Fait que c'est comme une saison complètement différente qu'on va entamer, rendu au retour à la fin du mois de février.
Ça va être un sprint final, en fait. Ça va être ça.
On t'a pas entendu sur tes favoris pour la Coupe. Y vas-tu avec Tampa ou tu vas ailleurs?
Ben, Tampa sont là. J'ai pas le choix de dire oui pour ça, parce que honnêtement, en ce moment, dans l'Est, j'ai de la misère à m'imaginer une autre équipe qui est aussi féroce que Tampa Bay. Tu sais, les Hurricanes... C'est tout le temps la conversation de l'équipe de saison régulière qui, en série, on n'a pas de gardien de but puis qu'on s'écroule. Je m'attends un peu à ça encore cette année. Puis à part les Hurricanes, dans Metropolitane, c'est difficile. Il y a plein d'équipes surprises qui font partie du top 3.
Il n'y a personne à Metropolitane.
Et le Lightning, en plus, ils ont calqué la recette robuste et hargneuse des Panthers. 100%. C'est pas nécessairement la même équipe que quelques années qui... Oui, il y avait un peu de robustesse, mais crime, ça brasse pendant les matchs du Lightning.
Non, la personne ici nous parle de l'Avalanche comme favori pour gagner la Coupe, là. Une équipe qui a tout cassé sur son passé. Est-ce qu'on vit un peu de l'effet de récence? Est-ce parce que le Lightning, dernièrement, traverse une période creuse qu'on les écarte de facto? Les Stars, qui sont constamment en finale de l'Ouest.
Mais pour moi, c'est leur division qui joue contre eux, l'Avalanche. Avalanche, Stars, puis Wild.
Ouais.
Tu peux quasiment flipper un 25 sous, pile ou face, puis
c'est qui va sortir de là? Sortir magané,
en plus.
Ouais, j'ai le feeling que, tu sais, c'est... Au final, ça va être comme des profils similaires d'équipes qui vont s'affronter. Ouais. Pas l'Avalanche, mais le Wild, t'as une attaque un peu laborieuse, mais t'as une bonne défensive, des bons gardiens de but. L'Avalanche, c'est plus l'attaque qui est prédominante. Mais les gardiens de but cette année, ils ont eu une éclosion, mais est-ce que ça va se poursuivre en séries éliminatoires? Puis j'ai l'impression que les Stars de Dallas, c'est du pareil au même. C'est toujours, on va être bon jusqu'à temps qu'on se rende en deuxième ou en troisième ronde, puis là... On a tendance à vraiment diminuer la cadence ou être essoufflé ou pas performer, tout simplement céder sous la pression. C'est pour ça que je mets pas ça. C'est plate, mais les équipes de l'Atlantique cette année, j'ai le feeling qu'il y a vraiment un sentiment de rouleau compresseur. Tu sais, même les Canadiens hier contre les Jets, là, ça a été un match où ça a été plus difficile tout au long de la saison d'être capable d'avoir une victoire dominante. Là, on l'a fait. Mais on dirait qu'on coche une case et la pause olympique va faire du bien et le sentiment d'urgence pour les séries va faire en sorte qu'il y a des équipes dans l'Est qui vont prendre vraiment, vraiment beaucoup d'importance et d'ampleur dans leur jeu.
En tout cas, une chose qui est sûre, la division atlantique est très forte par rapport à la métropolitaine. Puis je me suis amusé et je me souviens plus exactement ce que je faisais, mais ça m'a pas en tête plus tôt cette semaine. Puis je l'ai partagé dans le club du matin, mais je vais prendre le temps de leur dire. Depuis 2019, il y a eu 7 finales de la Coupe Stanley. Combien de fois une équipe de l'Atlantique s'est rendue en finale de la Coupe depuis 2019? La réponse?
Toutes.
C'est 8.
8?
Parce que le Canadien avait gagné l'Ouest. Fait que ça fait
ah oui, c'est vrai.
Parce que le Canadien et le Lightning se sont affrontés en 21. C'est vrai. Sur 7 Coupes Stanley, 8 fois une équipe de l'Atlantique était là. Zorro, la métropolitaine. Je vois pas pourquoi ça changerait cette année, honnêtement. Non. La métropolitaine, ça va absolument nulle part. L'Atlantique est très forte. On verra pour le Lightning, on verra pour les Red Wings, on verra pour les Sabres, les Bruins et évidemment le Canadien. Je n'écarte pas le Canadien de faire un bon bout de chemin en série. Je pense qu'ils sont encore très jeunes. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Mais j'aime ce que je vois à date de sortir un dernier sprint final avant la pause, d'aller récolter 9 points sur 10.
Ouais.
Tu vois que cette équipe-là gagne en maturité, honnêtement.
Ouais, puis le Canadien, on dirait que chaque fois qu'il y a une période plus difficile, chaque fois qu'il y a peut-être une séquence de match où ils ont des défauts, il y a des affaires qui vont pas bien, ils réussissent à corriger le tir et à rebondir et à être encore meilleurs. Le désavantage numérique, ça allait pas très bien dernièrement. Ben, ils ont été capables d'ajuster ça et ça va mieux. Les gardiens de but, ben là, depuis le congédiement d'Éric Raymond, nomination de Marco Marciano, autant de Bêche que Montembeau ont l'air de s'être replacés. Alors ça, c'est encourageant. C'est pas une équipe qui s'enlise dans sa torpeur, puis là, oh boy, elle finit par aligner une séquence de 8 défaites de suite comme on voyait dans le passé.
Exact. Puis en tout cas, à travers ça, on a du hockey excitant à Montréal, puis ça, c'est pour le mieux. On va avoir du hockey excitant aussi aux Olympiques, parce qu'on parle du Lightning. Je vais en glisser un mot. Anthony Cirelli déclare forfait pour les Olympiques, remplacé par Sam Bennett. C'est juste moi qui ai l'impression qu'on est meilleur en prenant un remplaçant qu'un joueur qui était nommé à la base?
Ben oui, moi aussi j'ai cette impression-là. Sam Bennett amène tellement plus d'énergie. Je sais que c'est pas nécessairement la direction comme celle des Américains, mais on s'entend à quel point Bennett a été important là, durant la confrontation des Quatre Nations pour le Canada. Il a été super important en fin de tournoi. Il va amener la même énergie puis le même style de jeu que cette compétition-là. Puis il va être très fort. Là.
En tout cas, plus physique, plus clutch, exact.
Conn Smythe.
C'est ça.
Gros but égalisateur dans la finale contre les Américains. Capable de s'élever son jeu d'un cran quand ça compte. Pas la meilleure des saisons régulières. Il n'a jamais été réputé pour un gars de saison régulière. Moi, je pense qu'il va débarquer là. S'il est capable de ne pas faire de niaiseries puis de jouer dans les limites de la légalité et des règles internationales avec une plus petite patinoire, moi, je pense que Sam Bennett, ça va très bien se passer.
Cyril était le seul joueur dans la formation canadienne qui ne faisait pas l'unanimité. Qu'on était comme, oh,
il était là pour son coach.
C'était le gars John Cooper, c'est ça que j'allais dire. Il l'a pris parce qu'il le connaît.
Exactement. Vous savez, les gars, le podcast, c'est une présentation de Sealy. Et c'est un avantage quand même, Sealy, parce que quand vous voyagez, on peut penser à billets, on peut penser à hôtel, on peut penser à l'itinéraire, mais il y a plein de choses qu'on oublie. Ce sont les données cellulaires. Mm-hmm. Et c'est extrêmement important parce que c'est là que ça peut devenir compliqué. Les frais d'itinérance ou encore des fois un Wi-Fi qui est plus instable, ça, c'est une perte de temps dès que tu arrives. Tu veux que ça fonctionne déjà. Ben, c'est pour ça qu'on utilise Sealy. C'est une carte eSIM qui est simple et ultra pratique pour rester connecté à l'étranger. Concrètement, une carte eSIM, c'est une carte SIM 100% numérique qui est intégrée directement dans votre téléphone. Donc, pas besoin de changer de carte. Tout ça se fait en ligne. Tu télécharges l'application Sealy, tu choisis le pays ou la région dans laquelle tu vas aller. Ton forfait de données en quelques minutes, ben, c'est activé. D'ailleurs, le code QR apparaît à l'écran présentement et tu peux simplement le scanner pour télécharger l'application et commencer à utiliser Sealy. C'est quelque chose qui est extrêmement simple et extrêmement pratique, surtout en 2026, où est-ce qu'on est toujours sur notre téléphone. Avant, on peut l'utiliser... Au départ, on peut l'utiliser à l'atterrissage, peu importe, ça fonctionne immédiatement. Puis un gros avantage de tout ça, c'est la tranquillité d'esprit aussi. Tu sais, Ali, là, t'es à l'extérieur du pays, t'en as assez de tracas, tu sais pas exactement où est-ce que t'es, mais tu veux pas avoir un problème avec ton téléphone cellulaire. Là.
Exactement. Fait que merci beaucoup à Sealy. Puis si vous aimez Radar, là, allez-y sur Sealy, essayez ça. Parce que ben, vous savez comment ça fonctionne les podcasts, là, évidemment, ça nous prend votre aide aussi. C'est votre façon de nous supporter.
Ben oui, tu peux avoir tes podcasts, mais tu peux avoir aussi Google Maps, les messages, le travail, les réservations, sans avoir à dépendre du Wi-Fi public qui peut être instable. Et autre point qu'on aime beaucoup, tout ça est géré à partir d'une seule application. Pas besoin de consommer sur plusieurs plateformes en même temps. Fait que si vous avez un voyage qui s'en vient, ben ça vaut la peine. Et en plus, grâce au podcast Radar et Sealy, vous allez sur sealy.com/radar et vous obtenez 15% de rabais sur votre prochain achat, sur votre premier achat plutôt. sealy.com/radar et vous avez juste à scanner le code QR qui est présentement à l'écran. OK, parlant de voyage, ben Artemi Panarin a fait ses valises pour la Californie. J'ai rien honnêtement contre les clauses en tant que telles. Moi, ça me dérange pas. Je sais que ça dérange beaucoup Gilbert, là. Moi, je pense que ça fait partie de la game. Mais une clause complète de non-mouvement, ça menotte énormément le directeur général quand le joueur est vraiment fixé sur une seule destination. Et c'était encore un cas qu'on a vu comme ça hier, Oli.
Et au final, t'as le contrat que t'as négocié, t'as le contrat que t'as signé. Alors, c'est les Rangers qui ont donné ça à Panarin, Jeff Gorton avec Chris Drury. C'est à eux de vivre avec ce problème-là. Panarin voulait juste aller à LA. Il s'est arrangé pour aller à LA. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis en faveur que les joueurs aient du pouvoir. C'est bien correct. On voit ça dans tous les sports. Basket, football, baseball, hockey. Les joueurs veulent avoir le contrôle sur leur destin, jouer où ils veulent. Puis regarde, c'est bien correct avec ça. Puis si vous n'aimez pas ça, donnez-en pas des clauses.
C'est ça que j'allais dire. Je pense que les dirigeants peuvent s'arranger pour avoir le gros bout du bâton, mais ça, c'est soyez féroce, puis soyez, tenez votre point, puis faites en sorte que ça va se passer, parce que sinon, ben justement, vous allez avoir les mains liées, puis vous n'aurez pas le choix. Mais moi, je suis comme Ali, là.
C'est qu'il y a un juste milieu à travers ça. Écoute, je vais te donner une clause de non-mouvement complète. Ben là, ça se peut que tu te fasses avoir, surtout à la fin d'une entente. OK, je vais te donner 10 équipes, 15 équipes, parce que tu ne peux pas être échangé. Good! Tu n'iras pas à Winnipeg. Tu n'iras pas à Buffalo.
Ouais.
Les endroits que tu ne veux pas aller, tu n'iras pas. Mais au moins, je vais être capable de faire monter les enchères, surtout dans un cas comme Panarin, où est-ce qu'il y a au moins une dizaine d'équipes, si ce n'est pas 15, qui s'est intéressé à sa candidature. C'est une évidence. Mais finalement, lui, il voulait aller jouer du côté de Los Angeles. Fait qu'on se contente, entre guillemets, de Liam Greentree, qui honnêtement, pas le meilleur des espoirs. Là. C'est peut-être le meilleur espoir qu'avaient les Kings. À l'exception peut-être de Carter George, mais c'est un gardien. Fait que pourquoi les Rangers auraient été chercher un gardien avec Chesterkin? Tu sais, Green Tree, c'est un gars de deuxième trio à son plein potentiel. C'est pas grand-chose, mais ça, c'est le problème des Rangers. Vous avez voulu ramasser Panarin, vous n'étiez pas tombé en construction, vous avez eu une fenêtre, vous avez eu des occasions, mais là, vous ne payez pas aujourd'hui, tout simplement.
Parce qu'en temps normal, si Panarin est disponible sur le marché, puis il n'y a pas de conditions avec les clauses de tout ça, c'est minimum un choix de premier tour et un espoir
B plus A.
B plus A, là. Ouais, peut-être vraiment. Même plus que ça.
Ben oui.
Là, finalement,
c'est ce que Brock Nelson a rapporté l'année passée.
Exactement.
Puis Panarin est un meilleur joueur. Ou en tout cas, offensivement, il contribue beaucoup plus que Brock Nelson en temps normal. Il est plus talentueux. Alors, c'est poche pour les Rangers parce qu'ils veulent entamer une espèce de reconstruction, mais t'es pas capable d'accumuler nécessairement les actifs nécessaires pour faire ta réinitialisation. Puis à l'opposé, les Kings, c'est comme... C'est correct, là. Ils veulent maximiser encore la fenêtre de Doughty et Kopitar, mais...
Ils
prétendront pas à la coupe avec Panarin.
Je pense que c'est vraiment... Tu mets le doigt sur le bobo. Kopitar, c'est sa dernière saison pour faire les séries.
Ouais.
C'est pas
ouais.
plus compliqué que ça. Faut pas aller chercher trop loin parce que c'est une équipe, je regardais ce matin, ils ont à peu près, juste un petit peu en dessous, 30 ans d'âge moyenne. Tu sais, écoute, il y en a du vieux stock là-bas.
Ouais.
Ah ouais, mais quand
c'est pas juste Kopitar Doughty, là, c'est Joel Edmundson.
Corey Perry, Joel Armia.
Puis Brian Dumoulin, puis Cody Ceci, puis là, t'as Panarin qui a 34
ans. Darcy Kemper,
quoi, 37 ans.
Non, mais honnêtement, moi, je vais vous le dire tout de suite, bien honnêtement, un des DG les plus surévalués dans la ligue, c'est Canan. Écoute, moi, je suis pas un fan.
Il est pris dans le passé.
C'est un patcheur de trous professionnel.
Il est débarqué à Edmonton, il m'a pas impressionné. Il est allé chercher Duncan Keith à Edmonton. Je trouvais que c'était un. J'avais l'impression qu'il aurait fallu qu'on paye pour se débarrasser du contrat de Keith. Au contraire, c'est lui qui avait acheté ça parce qu'il est très axé sur l'expérience dans une ligue nationale qui est maintenant axée sur la jeunesse et le patin. Je trouve que ça clash encore à Los Angeles.
Puis avec Panarin, il y a une chose qui est claire. Là. Le gars, il peut pas dire qu'il a pris une destination pour gagner. C'est pas avec les Kings que tu vas gagner une coupe.
Non,
le gars,
il veut être bien.
Parce qu'il veut être à LA... Belleville, il va s'amuser, il va faire ses affaires. Mais s'il voulait gagner une Coupe Stanley, compétitionner, gagner des rondes en série, il aurait joué ses cartes pour aller ailleurs. Surtout que de ce qu'on comprend, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient très intéressées à lui.
Puis il n'a pas pris la meilleure destination pour le cash non plus.
Non.
Parce que Friedman a sorti il y a une coupe d'heure. Le Kraken de Seattle était prêt à donner une prolongation de contrat de pas 2 ans, mais de 4 ans. Je rappelle que Panarin a 34.
Mm-hmm.
À au-dessus du salaire annuel de Leon Draisaitl, qui est de 14 millions.
Ça, c'est fou. C'est fou.
On était prêt à donner 4 ans, 14 millions à Artemi Panarin.
Et les chances de faire les séries du Kraken et des Kings sont à peu près pareilles.
Ouais.
Alors, plus d'argent, chance égale de faire les séries, tu prends quand même LA. C'est parce que tu as juste le goût d'aller là-bas. Là.
Ah, puis c'est correct. Honnêtement, ben il y a le droit.
C'est ça. Comme je disais au début, les joueurs ont le droit de choisir où est-ce qu'ils veulent aller.
Mais
c'est
moi, je suis content que ça arrive aux Kings.
Hmm.
Pas aux Kings, aux Rangers. Parce que les Rangers, c'est eux, il y a une couple d'années, qui ont fait la transaction Patrick Kane. Ça leur a coûté des peanuts. Ils ont eu Patrick Kane pour Andy Walensky, un choix conditionnel de deuxième tour et un quatrième choix. Et même Walensky, à l'époque, était identifié comme un gars de la AHL.
Mm-hmm.
Écoute, c'est pas le gros char.
Puis, ils ont donné quoi pour... Vladimir Tarasenko, c'était la même année, je pense.
C'est la même année, c'est un peu plus tôt.
Ouais,
ils n'ont pas payé bien.
Puis les Kings, les Rangers, je veux dire, c'est l'équipe de nous, tout le monde veut venir ici, fait que on s'arrange tout le temps pour avoir des vedettes. Ben là, c'est un peu le retour du balancier, là, que là, ils veulent partir. Puis ils ne gagnent pas plus ces temps-ci. Je crois qu'ils ont 2 défaites à leurs 10 derniers matchs. Fait que c'est du karma, puis c'est bien mérité.
Ben là, écoute, c'est une situation un peu particulière. Ouais.
Samuel Blais était dans ce deal-là, de Vladimir Tarasenko.
Ah ouais?
Ah oui, c'est vrai, okay. Il y avait joué pour les Rangers.
Ouais, c'est avec Nico Mikola aux Rangers contre Hunter Skinner, Samuel Blais, un choix conditionnel de premier tour et un choix de troisième tour.
Ok, quand même.
Bon, ouais, c'était ça.
C'est ça. Mais non, effectivement, je suis d'accord. Puis tu sais, je veux pas les Rangers. En commençant à échanger les gros noms, ça fait en sorte que justement, là, on s'enligne vers une reconstruction, puis on n'a pas le choix de bâtir notre banque d'espoir, puis ça va partir par Green Tree, puis des Perreault, puis ces gars-là. Mais en même temps,
tu commences à être. Puis tu commences à être. Ouais, Brennan
Hartman.
Ouais, Brennan Hartman.
Des espoirs de second.
Ouais,
même Perreault.
Ah, Perreault plus quand même. Un petit peu.
Perreault, il est quand même.
Il coche au-dessus de Green Tree.
Il coche au-dessus, mais pas sûr que ça va être un joueur de premier trio nécessairement dans la ligue.
Non. Mais mais quand même, je prendrais
Perreault. C'est eux qui ont besoin, c'est de repêcher au cette année.
Ouais, faut que tu bâtisses ta banque. T'as pas le choix.
Peut-être Gavin McKenna.
C'est drôle parce que Green Tree a été repêché 26e en 2024. Je viens de comprendre, tu parlais de McKenna, on y revient dans une seconde. 26e en 2024, Greentree, c'est le Canadien qui avait le choix 26 en 2024.
Ouais, Michael Age.
Exact, ouais. Ils se sont servis de ce choix-là pour monter 21 pour repêcher Michael Age. Et aujourd'hui, Michael Age a tout cassé au Mondial Junior. Greentree avait de la difficulté à vraiment s'établir avec la formation.
Fait, les meilleurs pointeurs de la NCAA.
Ça, des espoirs aux opposés complètement.
Exact.
Mais regarde, parlons-en de Gavin McKenna, véritable bombe qui est tombée hier. Quand c'est sorti, je le croyais pas trop. J'étais comme, ok, t'as peu, c'est un canular, je me fais niaiser. Moi, j'étais en onde, j'étais sur mon autre podcast. Puis je voyais la messagerie, les textos qui rentraient. Puis je me disais, ah, j'ai pas envie de me faire prendre, j'irai pas là-dedans, je vais prendre le temps de vérifier.
Il faut faire attention aux fake news.
Ouais, c'est dangereux quand même, les fake news.
Très, 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 très important.
Méfiez-vous.
Ouais, ouais, vraiment.
Puis là, j'étais comme, ok, ben t'as peu, je suis pas sûr. Mais finalement, non, c'est bel et bien vrai. Fait face à des accusations de voix de fait grave pour Gavin McKenna.
Moi, je suis sous le choc par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on voit vraiment rarement au hockey. Puis là, bon, ce sont des rumeurs sur Internet. Je crois qu'il y a quand même un journaliste qui de la région de Penn State, là, qui a rapporté ça, comme quoi, en gros, il y aurait eu une altercation dans un bar et quelqu'un s'en serait pris à la mère à McKenna, l'aurait insulté, des affaires comme ça. Donc, le McKenna aurait amené ça dans la rue pour la défendre.
Il l'aurait poussé à la limite.
Et tout. Sauf qu'il lui a fracturé la mâchoire. On parle de plusieurs coups de poing solides. Puis, je comprends, là, tu veux défendre ta mère. Moi, je ferais n'importe quoi là, pour ma mère. Là. Je me jetterais devant un bus pour elle. Mais t'es quand même un athlète qui va devenir un athlète professionnel. Les standards sont différents que monsieur, madame, tout le monde. Tu peux pas régler des cas comme ça. Tu sais, t'es une figure publique. On en parlait avec William Nylander, avec son doigt d'honneur, il y a pas si longtemps que ça. Les athlètes, les politiciens, les artistes. Il y a des choses que les gens normaux peuvent faire que tu peux pas faire.
Exact.
Puis moi, Gavin McKenna, qui est supposé être éventuellement le joueur de ta franchise, un joueur que certains disent générationnel.
Le visage de la Ligue, Oli.
Le visage de la Ligue. J'aurais de la misère parce que c'est un sérieux manque de maturité, un sérieux manque d'éthique, de professionnalisme. Tu peux blâmer l'alcool, tu peux blâmer son âge, tu peux blâmer qu'il défendait sa mère, mais ça reste que ça, ça se fait pas. Mettez-vous, imaginez-vous, là, est-ce que Sidney Crosby aurait fait ça? Jamais de la vie. McDavid aurait jamais fait ça. Tu retrouverais jamais Nick Suzuki dans une situation similaire.
Ouais.
Pour moi, faut appliquer ce même standard-là à McKenna. C'est très décevant.
Il a pas été victime d'une embuscade, là. Écoute,
non, ben non.
Il s'est fait niaiser, puis il a pogné.
Il y a une autre façon de s'en sortir. T'es dans un bar, il y a de la sécurité, il y a du monde autour de toi. Comme, t'es pas obligé d'y casser la gueule.
Sais-tu ce qui me fait capoter là-dedans? C'est qu'on voit beaucoup de gens sur Internet dire « Wow, il est venu à la défense de
sa mère. »
Ah oui,
je le prendrai dans mon équipe.
Fait que là, je vais le prendre dans mon équipe parce qu'il va défendre ses coéquipiers sur la glace. Ça. Je m'excuse, mais on est un peu hypocrite. Là.
Ouais.
On choisit, on aime le gars, on veut qu'il performe, fait qu'on aligne notre façon de penser en fonction de... Mais on traite pas les mêmes nouvelles, les autres nouvelles de la même façon par rapport à ce qu'il protagoniste.
Non, puis dis-toi, McKenna, t'as raison. Soit en connaissance de cause. Là. Genre, t'as déjà les spotlights sur toi. Là, ça fait en sorte que... T'as transféré de la Ligue canadienne à NCAA pour 700 000 et quelques. Là, en plus, tu viens de scorer le but gagnant dans un match extérieur devant 65 000 personnes. Les gens savent t'es qui. T'as passé à Spin Chicklets le jour avant. T'as déjà tous les projecteurs sur toi. Tu peux pas agir de la sorte.
Il y a clairement un double standard en ce moment. Là, il y a deux semaines, William Nylander qui fait le doigt d'honneur. C'est le pire être humain sur la planète Terre. Quel mauvais exemple pour les jeunes. Puis là, après ça, à côté, t'as McKenna qui fracture la mâchoire à quelqu'un. C'était peut-être mérité, là. Peut-être qu'il méritait de se faire tabasser. Mais pareil, pour moi, c'est beaucoup plus répréhensible comme geste.
Mm-hmm.
Et là, il y a certaines personnes qui applaudissent McKenna. Je suis désolé, mais pour moi, la violence, c'est pas une façon de régler les cas dans la vie de tous les jours. Là.
Ouais,
c'est pas une façon d'agir.
Habitue-toi, là. Ça fait partie de ta nouvelle réalité. Là.
Ouais,
tu vas te faire constamment harceler. Là.
Tester, les gens ils vont tester tes limites, essayer de faire en sorte que tu sors de tes gonds. Puis si là, on voit que c'est dans le caractère à McKenna, les gens vont essayer encore plus. C'est comme ça que ça marche. Là.
Ben oui, exact. Ben oui. Sur la glace, il va se faire niaiser. Ça, c'est s'il joue sur la glace parce qu'il fait face à des accusations qui pourraient amener jusqu'à 20 ans de prison.
Il ira sûrement pas en prison, mais pareil.
On sait pas, en fait.
Ouais.
Parce que ce sont des accusations qui sont au fédéral. C'est pas l'État, là. C'est pas civil, c'est différent. Tu peux pas régler ça en dessous de la table.
Non.
Il y a plein de détails. Je suis vraiment pas avocat, mais... assez pour savoir qui est dans le trouble.
Oui.
J'ai vraiment...
Penn State doit pas triper.
Non.
Tu l'as dit, Hugo, ils ont mis beaucoup d'argent dans lui. C'était supposé être le visage un petit peu de la nouvelle vague, là, des gars qui quittent le junior canadien pour la NCAA. Tu mets beaucoup d'argent dans lui. Puis ça salit le nom de ton université, là.
Ouais,
je comprends que c'est quoi. Puis il riait, il répondait à ses photos
avec
des gifs de gars des combattants, mais...
Les gifs de Jackson Smith, puis...
T'es une institution comme Penn State, c'est pas bon pour toi?
Quel manque de jugement de la part de ses coéquipiers. Moi, ça me fait rire.
Ouais.
Parce que je suis pas impliqué. Mais oh là là, que c'est pas fort.
Ouais, puis eux autres aussi, ils peuvent se mettre dans la marde, là. Veux pas, là, à cause de ça, là. Je veux dire,
Pensez-vous que ça va faire mal à son rang de sélection au prochain repêchage?
Oui, mais pas tant.
On n'a pas encore tous les détails. On le sait pas. C'est très difficile de se prononcer sur cette question-là parce que il est reconnu coupable puis il s'en va 5 ans dedans. C'est sûr que ça va avoir un impact.
Ça, oui.
Ça se règle finalement puis il s'en sort indemne. Pas vraiment, honnêtement.
Non.
Fait que tu sais, c'est très tough de se prononcer là-dessus.
Ouais.
Mais juste le fait que tu sais, sur la glace, Stenberg semblait l'avoir dépassé. T'ajoutes une couche avec quelque chose comme ça. D'après moi, c'est pas mal clair.
Ouais, que,
si ton évaluation entre Stenberg et McKenna est que les deux sont égaux, mais que t'en as un qui vient d'avoir ça.
Mais des valeurs morales qui embarquent.
Ouais, puis qu'il semble avoir eu quelques cas. Ça fait plusieurs matchs qu'il se fait expulser, des affaires comme ça. Bah, je vais aller avec Stenberg. Il a l'air d'être un petit peu moins casse-tête.
Tu m'aurais dit, sans cette histoire-là, que Stenberg sort un, McKenna sort deux. C'est pas genre shocking non plus au moment où on se met dans la saison. Début de l'année, je t'aurais dit autre chose. Au moment où est-ce qu'on est. McKenna, on oublie la bagarre, il sort deuxième. Tout le monde est capable de vivre avec ça.
Ouais.
Il sort quatre, alors qu'il n'y a pas... Tu sais, là, ça serait une autre histoire. Là, ça serait vraiment une autre paire de manches. On verra parce que il y a des gens qui veulent son bien à tout prix. Il y a des gens qui veulent sa tête. On verra comment ça va tourner.
Légal.
Effectivement, ça va être judiciaire. Il y en a, par contre, qui veulent la tête de Rick Tocchet, les partisans des Flyers de Philadelphie. Mm. C'est une histoire absolument à broc à la brande qui est arrivée. Tocchet est sorti publiquement pour critiquer Matvei Michkov et sa forme physique. Il a dit, c'est pas compliqué, là. La Ligue nationale de hockey, c'est pas fait pour se mettre en forme.
Mm-hmm.
Et il a dénoncé le manque de professionnalisme de son joueur, sans le viser directement, mais on est tous capables de lire entre les lignes, comme quoi il arrivait en retard au traitement, comme quoi il avait une mauvaise nutrition. C'est quand même un bon scandale ce qu'on vit présentement du côté de Philadelphie, là.
Ouais, puis je sais pas, il s'attendait à quoi pour de vrai, là, parce que Michkov, on le savait avant le repêchage que c'était pas un enfant de cœur. Il y avait beaucoup d'histoires en Russie comme quoi c'était un mauvais coéquipier. Je pense que c'est Mathias Brunet qui avait rapporté comme quoi il avait kické un de ses coéquipiers, comme son père, histoire un petit peu nébuleuse et tout ça. C'est pas pour rien que le gars il a glissé au repêchage. L'été passé, t'as l'histoire bizarre à Dubaï, accident avec genre une escorte, je pense, dans l'auto ou quelque chose. On a vu les photos, il est pas arrivé en forme au camp. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Rick Tocchet, c'est un pro. C'est un des bons coachs dans la ligue. Il fait son travail pour... Tu sais, au final, Rick Tocchet, là, il a des bonnes intentions avec Michkov, là. Pas parce qu'il a eu les Russes ou parce qu'il a eu le kit, non. Lui, il a une job à faire. Il sait que Michkov, c'est un talent incroyable. Il essaie juste de lui instaurer une rigueur professionnelle.
Puis est-ce que la genre de conférence de presse un peu inextrémiste de Daniel Brière a fait en sorte que ça a penché vraiment du côté à Michkov? On dirait qu'il défendait à la fin, il termine, il dit « c'est comme prendre soin d'un ado, genre ».
Ouais, mais il dit « il faut apprendre, c'est comme élever des enfants, comme il y a ça, des hauts et des bas, tu sais ». Écoute, moi, je
t'as choisi d'élever cet enfant-là.
C'est ça.
Ça, c'est un point. Cela dit, moi, je plaide coupable, je l'aurais repêché. En même temps, j'ai pas conduit les entrevues, puis je connaissais pas trop la personnalité, je me fiais seulement sur les performances sur la glace. Mais moi, je jouerais pas l'hypocrite ici aujourd'hui. J'aurais aimé ça que le Canadien mette la main sur lui, parce que je pensais qu'on avait besoin d'un attaquant de talent. Il va en marquer des buts.
Mm-hmm.
Il va en produire des points. La question, c'est de savoir, il va en donner comment, parce que défensivement, c'est pas super, mais aussi les distractions qu'il va occasionner au sein de l'équipe. Et là, la base de partisans des Flyers, c'est pas comme si elle avait besoin vraiment de se faire allumer. Elle est frustrée présentement, là. On crie « Fire Tocchet ». On n'aime pas ce qu'on entend de Daniel Brière. Moi, si j'étais les partisans des Flyers, là, je serais bien content d'avoir Rick Tocchet. Il vient de gagner de Jack Adams. Puis si on fait la liste des derniers entraîneurs-chefs des Flyers de Philadelphie, là, c'est pas tout le temps des gros noms. Là. Avant, c'était Bradshaw. Avant ça, t'avais Tortorella, Mike Yeo, Alain Vigneault. Mais tu sais, ça a été plus ou moins. Là. Scott Gordon, Dave Axtell. On avait eu un plus jeune Craig Berube. Tu sais, je veux dire... C'est pas comme si on se garochait aux portes pour aller diriger les Flyers. Là, vous avez le gars qui a gagné le Jack Adams il y a un an et demi. Là.
Non, non, c'est ça.
Essayez de prendre un pas de recul puis de comprendre les deux parties avant de vouloir le sacré dehors.
Ça fait probablement partie des arguments, justement, la base de partisans là-bas qui est vraiment stricte puis vraiment intense. Mais ça se reflète aussi partout dans tous les sports professionnels à Philadelphie. C'est vraiment pas facile de jouer là-bas. Juste les fans des Eagles qui gagnent le Super Bowl, puis après ça, c'est la pire équipe au monde.
Congédé tout le monde.
C'est ça, les Phillies, ça a été dur au début avec Bryce Harper. Finalement, ça s'est replacé. Donc, on a des bonnes équipes, puis...
Trey Turner,
exact. Il y a eu des bons coups. Il y a eu des bons coups à Philadelphie. L'arrivée de Trevor Zegras en est un bon coup.
Ouais.
C'est une lueur d'espoir. On a bien commencé l'année. On était capable de se battre. Il y a un déséquilibre là-dedans épouvantable. Puis Mishkov fait partie du problème un peu.
Puis si tu regardes tout ce que Briard a fait jusqu'à maintenant, il y a beaucoup plus de moins bons coups que de bons coups. Zegras en est un très bon, mais à part de ça... T'sais, les Flyers ont eu un bon début de saison, mais c'était un peu Dan Vladar là, qui jouait au-dessus de ses moyens.
Ouais, vraiment.
Christian Dvorak aussi.
Ils n'ont pas nécessairement des espoirs de premier plan. T'sais, c'est du Jet Luchenko. Bon, Porter Martin peut-être, mais je peux pas nécessairement dire que hey, Daniel Briard, il a vraiment redressé les Flyers. c'est dommage qu'il n'ait pas devenu DG du Canadien, ce gars-là.
Non.
Ben écoute, ça, tu m'envoies exactement où je m'en allais. Le Canadien l'a peut-être échappé belle en ne repêchant pas Mishkov. Il l'a peut-être échappé belle en ne nommant pas Daniel Briard comme directeur général de l'équipe. Mm-hmm. Parce qu'il était dans la course avec Kent Hughes. J'adore ce que Kent Hughes accomplit présentement. Il est droit. Il a un plan. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Il l'exécute. Et c'est pas vrai qu'il a peur de procéder à des achats. Il le fait régulièrement. Il améliore son équipe au fur et à mesure. Puis il est capable d'aller chercher des éléments. Mais sans jamais compromettre le futur de l'équipe. Et on est en train de bâtir à Montréal une équipe excitante qui peut gagner là, mais qui va pouvoir aussi gagner dans 5 ans.
Et ce qui est clair avec Kent Hughes, c'est que pour lui, c'est aussi important de bâtir une culture. Il repêcherait jamais, peut-être un gars qui est peut-être méchant, mais une verrue comme Matvey Mishkov. Là. C'est fini à Montréal à l'époque. Des Galchenyuk, puis des Beaulieu, puis des Zach Cashin, puis des gars comme ça qui étaient comme Costitine, que c'est comme... Non. On a des enfants de cœur, puis regarde, c'est des bons gars, puis ouais, tu gagnes pas juste avec des enfants de cœur, mais nous, on va essayer de gagner juste avec des enfants de cœur.
Ouais, puis c'est une culture qui se bâtit, puis tous les gens adhèrent à la culture en ce moment. Tu sais, Bar Down, hier, ils ont publié une vidéo de Martin Saint-Louis qui dit « Je suis super fier d'être votre entraîneur.
Ouais. »
Et ça veut en dire beaucoup, autant pour le coach que pour le joueur.
Ouais.
Tu sens que tes joueurs veulent jouer pour toi, qu'ils poussent pour toi, puis autant les joueurs qui vont voir le coach être vraiment engagé, être vraiment attaché au groupe. C'est malade, là. Puis ça, c'est tellement des pas de géant vers la bonne direction, vers le fait que le Canadien, dans quelques années, ils vont être des prétendants sérieux à part ça.
Mais assurément qu'ils vont être des prétendants sérieux, puis je le maintiens, le Canadien va gagner la Coupe Stanley dans les prochaines années. Je l'ai dit plus tôt, je pense vraiment que les morceaux sont en place. Hier, je m'amusais avec Marty sur notre autre podcast, La Relève, puis Marty dressait son top 125 des moins de 23 ans. Et dans ce top 125-là, t'as 3 joueurs du Canadien dans les 10 premiers rangs.
Wow.
Tu sais, c'est quand même... Puis Marty fait pas ça pour faire plaisir aux fans du CH. Il fait ça parce qu'il le pense vraiment.
Hutchin, Demidov, Slav?
Exact. Ouais. Ouais. C'est genre, là, j'y vois de mémoire, mais je pense que c'est Demidov 4, Hutchin et 6, puis Slavkovski 10. Quelque chose comme ça, là, honnêtement. Là, je vérifie mes notes. Là. Mais ça démontre quand même que cette équipe-là va vraiment dans la bonne direction. Et on n'arrive pas que, OK, ça, c'est le produit final, puis il n'y a plus rien. On a encore des joueurs qui s'en viennent. Et on a encore des choix au repêchage.
Ouais.
Et on est quand même armé pour continuer à améliorer l'équipe, pour avoir d'autres talents, d'autres joueurs qui vont gagner 900 000, qui vont venir se greffer à cette équipe-là quand le contrat de Hudson va rentrer en vigueur. Le contrat de Slavkovski s'est enclenché.
Et quand l'argent va se libérer aussi.
Exact.
De Laine, de Gallagher, de Anderson.
Puis Demidov, ça s'en vient. Va coûter cher aussi, Demidov. C'est intéressant.
Oui, exact. Puis j'allais dire, pour compléter là-dessus, une des grandes forces à Kent Hughes, c'est le sens du timing. Puis ça, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise un bon DG d'un mauvais DG. Être capable de faire des moves au bon moment. Puis, ben justement, il est capable d'être en symbiose avec tout ce qui se passe, signer des bons contrats au bon moment. Tu sais, la transaction de Carrier, là, 2 ans, l'année passée, en fait. Puis ça fait en sorte que, justement, tu sais, l'arrivée de Dano, c'est toutes des pièces importantes qui n'ont pas un gros impact. Même, tu sais, le gros move avec le plus d'impact, ça a été Noah Dobson.
Sur
la masse, mais ça a été au bon moment, encore une fois. Parce qu'au final, Zarovski... Il était plus loin ses listes de tout le monde. Il a réalisé ça.
Ouais, ils ont quand même eu le joueur qu'ils voulaient.
C'est ça.
Exact. On vient de parler d'entraîneur-chef. Il y en a un autre entraîneur-chef qui va très bien ces temps-ci. Rick Bowness. Il a gagné 10 des 11 matchs qu'il a dirigés. Tu sais, puis ça, c'est le plus vieux truc du monde. Tu congédies ton coach juste avant une partie facile de ton calendrier. Comme ouais. ça, tu donnes une chance à l'autre en place d'avoir l'adrénaline artificielle des joueurs, d'être capable de « Ah, OK, c'est intéressant, on bâtit quelque chose. » Ça, c'est vrai pour 2-3 matchs. Et là, on est rendu à 10 en 11. Les Blue Jackets semblaient morts et enterrés. Et là, on cogne vraiment à la porte parce que parallèlement à ça, t'as les Islanders là, qui sont en train de piquer du nez dans la métropolitaine. Là. Vraiment, ce qu'on accomplit du côté des Jackets slash Zach Werenski, c'est vraiment impressionnant.
Est-ce qu'il pourrait être dans la course pour le Jack Adams si les Jackets se faufilent en série?
Il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre d'avoir le Jack Adams à une demi-saison?
Oui.
Oui.
Tu sais, Jim Montgomery, l'année passée, avec les Blues, on avait un peu le même débat au final.
Oui, en même temps, tu sais, c'est ça. Ça va avec les résultats, mais je suis d'accord que moi, tu devrais t'acharner à tout ce qui s'est passé sur l'entièreté de l'année. Par exemple, c'est super bon signe. Puis s'il est capable de créer quelque chose avec ce groupe-là, c'est intéressant. D'ailleurs, fait intéressant, les gars, je sais pas si vous saviez ça, mais en début d'année, les deux gardiens des Blue Jackets de Columbus, Jet Greaves et Elvis Merzlikins, avaient le meilleur pourcentage d'arrêt de la ligue pendant les 15 premiers matchs d'année. C'était du 915-916.
Wow.
Jet Greaves a été impressionnant à la fin de l'année dernière.
Ouais.
D'ailleurs, ça a été une des raisons pourquoi les Blue Jackets se sont battus jusqu'à la fin les séries éliminatoires. On dirait qu'il est en train de reprendre du poids de la bête. C'est beau de voir des histoires comme ça au sein des équipes, de joueurs qui sortent un peu de nulle part, mais qui poussent pour les succès de l'équipe. Ça fait partie justement de cette ascension-là des Blue Jackets. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'ils fassent ces séries. Je trouve que c'est un groupe quand même assez intéressant. Puis on a fait des moves aussi pour aider l'équipe. Je pense que Voronkov, c'était un peu une plaie. Puis on l'a enlevé de là.
Voronkov,
celui qui est échangé à Pittsburgh. Shinnakov, excuse, okay. je me suis trompé.
Hey, Voronkov, je
Non, Voronkov, il est excellent. Je me suis trompé, Shinnakov, okay. Ouais.
Exact. Mais il va quand même bien à Pittsburgh.
Oui, il va bien, mais tu sais, nouvel environnement aussi, tu sais, ouais. Ça aide beaucoup.
Assurément. Parlant de Pittsburgh, avez-vous vu les images de Sidney Crosby quand il a regardé le vidéo hommage, là, la larme qui coule. Puis... Tu vois que c'est un vrai... Il n'y a jamais eu de doute par rapport à ça. Crosby, tout le monde le sait que c'est comme l'ultime joueur de hockey créé dans un laboratoire. Là.
Ben oui.
Mais c'est comme une autre couche de « wow ».
Ça te permet d'apprécier le joueur encore plus, sérieusement.
Ouais, c'est vraiment un joueur parfait. Puis c'est pour ça que c'est quand même le fun de le voir en série encore. Là, puis de voir les Pingouins continuer à être bons. Puis... C'était le fun de fantasmer de oh, est-ce qu'il pourrait venir à Montréal, est-ce qu'il va être échangé, blablabla, bla, bla, mais...
Ça arrivera pas à court terme, en tout cas.
Non, c'est sûr.
C'est un vrai, là. Il veut finir sa carrière avec les Pingouins. Ben c'est oui. Comme... C'est vraiment un joueur qui... Il aurait pu jouer dans les années 80, lui, là. Il y en a rien à chier des réseaux sociaux, de la nouvelle génération, de me, myself, and I. Lui, là, c'est... C'est les Pingouins, puis c'est tout ce qui compte pour lui.
Ah ouais, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver à la fin de sa carrière, mais c'est sûr qu'il va être impliqué dans l'organisation. C'est beau de voir ça. Puis d'ailleurs, tout l'hommage que les Pingouins ont rendu avec les messages d'anciens coéquipiers, Matt Murray avait fait un message à ce groupe-là. C'est beau de se commémorer ça. Puis les Pingouins ont quand même fait partie des grandes organisations là, des années 2000. Là. Puis Sidney Crosby est au cœur de ça. Ouais, au cœur de ça.
Sûrement, tout ça parce qu'on a gagné une loterie. Là.
Exact.
Il n'y a pas de pourcentage cette année-là.
Il y avait une chance sur 30.
Chance sur 30, là.
Puis ça s'est passé.
Vous êtes trop jeune pour ça, hein? Ah ouais, toi, t'avais 4 ans. Toi
Crosby? Aussi, en 2006, 2005. J'avais 8 ans. Fait que je m'en souviens. En 2005, j'avais 7 ans, je m'en souviens. Ouais.
C'était fou, là. Ouais. Tu regardais ça, puis t'es comme, « Chut, le Canadien est encore là. »
Ouais.
Le Canadien est encore là. Le Canadien a-tu drafté Crosby? Là, finalement, évidemment, 5e avec Carey Price. Un très beau prix de consommation, ben oui. Quand même.
Quoi que ça aurait pu être... Mais... Benoît Pouliot, là.
Ouais. Oui, parce qu'on visait Benoît oui. Pouliot. On remercie ouais, le Wild de l'avoir empêché juste devant nous.
Ouais.
Les gars, si Crosby est éventuellement échangé, les demandes vont être astronomiques, mais les demandes que les Blues ont pour Robert Thomas, c'est démesuré. Là. Du côté de Doug Armstrong, on veut l'équivalent de 3 choix top 15. Ouais, ouais. Soit des choix tangibles qu'on va nous-mêmes repêcher, ou des espoirs qui ont été repêchés dans les années précédentes, qui ont ce pedigree-là d'un choix top 15.
Hey. C'est-tu si fou que ça, par contre, comme demande? Pour un centre numéro 1, là.
Ben, c'est beaucoup, ben, trois c'est choix beaucoup, top 15, là.
Noah Dobson, ça a été deux choix de 15, puis quoi? 16-17.
16-17.
Puis Emil Heinemann. On n'est pas loin de ça pour Robert Thomas.
Emil Heinemann, c'est pas du tout un joueur digne d'un choix top 15.
OK, mais Robert Thomas... est un meilleur joueur que Noah Dobson.
Ben, c'est débattable
c'est
parce que t'as quand même
ben, le
premier
numéro
centre.
Un.
Ouais, mais versus
Noah Dobson est même est genre le troisième défenseur du Canadien.
Non, mais t'as pas eu le c'est versus le défenseur droitier là. C'est deux positions clés qui sont pas faciles à trouver. Non, non, mais écoute,
okay. c'est plus de blessures
ou Noah Dobson.
Ben, ça dépend c'est quoi mon club a besoin.
Tu pars un club là, from scratch.
Je prendrais le premier centre. Mm. Je prendrais Robert Thomas. Mais pour vrai, Noah Dobson, il y a une facette de ça qui est à considérer. Il a un peu forcé la main aux Islanders aussi dans là-dedans. Là. C'est le même principe qu'on parlait tantôt pour Panarin. Là.
Justement, s'il n'avait pas forcé la main, il serait parti pour encore plus que ça.
Exact, c'est ça mon point. Mais c'est pas les demandes de Robert Thomas présentement. Là. C'est inférieur. Emil Heinemann, je ne sais pas si vous avez suivi. Là,
ouais, ça va pas
il
très bien.
Très mauvais stretch. Là.
Ouais.
Je pense qu'il y a un point en 8 games. Là.
Ouais, ça
a été l'équivalent de deux choix top. Je veux dire top 15, même
ouais,
si c'est 16-17. Et un choix de deuxième ronde, Emil Heinemann.
À peu près. Ouais. Ouais. À peu
on n'est pas si loin de trois choix top 15.
Mais
trois, c'est
ben, un peu. Là. Trois, hein, écoute, là, un choix de deuxième ronde pour grimper top 15, il y a une pas pire différence. Là, là je ne sais pas.
Non,
pas
ouais, non,
qui,
non, c'est
là,
vrai.
Mais c'est
puis,
quand même.
Si Nick Suzuki était échangé demain matin, c'est ça que le Canadien demanderait, peut-être même plus.
Assurément.
Ben voilà pourquoi on est surpris. Robert Thomas, c'est un centre top 20, top 15 dans la Ligue nationale?
T'sais, il a jamais fait, je pense qu'il n'a jamais fait 85 points, Robert Thomas. Là. On peut quand même.
C'est ça.
On peut
il est blessé souvent.
Un peu, là.
Il est blessé souvent. Son état de santé aussi est questionnable.
Vous êtes des haters.
Pas des
haters. On n'est pas des haters, c'est juste qu'on est réaliste.
Moi, je pense que Doug Armstrong, il met la barre très haute parce qu'il dit il y a peut-être quelqu'un qui va paniquer.
Il a déjà fait 86 points, puis l'an passé, c'était 81 en 70.
Bon, mais regarde, il l'a fait une fois, 85.
Puis il a fait 77 points en 72 matchs. Fait qu'il y a plus de saisons points per game que Nick Suzuki.
OK.
Puis, qu'est-ce que ça fait, ça?
Non, mais dans...
Avec, c'est un
non, mais dans
des
le sens que...
de la Ligue. Soyez pas surpris qu'on demande autant pour lui.
J'ai pas dit que... J'ai dit que...
Tu donnerais genre Michael McNiven, puis...
Michael McNiven.
Puis Brett Lernout, puis un choix de 7 pour Robert Thomas.
Non, je donnerais pas ça.
Non, mais on dit pas, t'sais, on dit pas que la valeur est pas bonne. Là. C'est juste qu'il faut quand même évaluer le fait que ce gars-là, c'est un centre, oui, d'impact. S'il se greffe à un groupe qui a déjà un excellent centre, si tu peux, mettons, je sais pas moi, je peux, mettons, on se joue au Wild du Minnesota. Il y a pas une bonne ligne de centre en ce moment parce qu'il y a des blessures, mais comme, si on se fie à ça...
T'as-tu dit, s'il se joue à un groupe qui a un excellent centre puis t'as choisi le Wild
non,
du Minnesota...
Non, mais j'avais pas d'équipe en tête. Mais ce que je veux dire, c'est si je joue à une bonne équipe, Doug Armstrong, mon point est que... Doug Armstrong va essayer de profiter du fait qu'il y a une équipe qui vont vouloir un bon centre pour se rendre loin et pour racheter, pour aller chercher ça. Puis c'est la beauté de la date limite des transactions. Mais il faut quand même que tu prennes en considération ce que Robert Thomas est. C'est un centre excellent, qui a un bon ratio de points par match, mais qui a un état de santé fragile.
Ouais, mais personne n'y reproche que c'est pas un bon centre. Je sais pas si c'est ça que vous interprétez dans
non,
les propos.
Non, mais je tiens aussi à te rappeler que Quinn Hughes vient d'être échangé pour 4 choix de premier tour, dont on favorise Yves Bouillon.
Ouais, mais il y a un gros gap
Steve
entre Quinn Hughes et Robert
favori,
Thomas.
Là. Premièrement, Yves Bouillon, c'est pas mon favori. J'ai juste dit que c'est un excellent espoir. Le Monday va falloir sortir le tape. Deuxièmement, il y a effectivement un gros gap entre Quinn Hughes et Robert Thomas. Pour moi.
C'est pas pantoute dans la même classe.
À Hughes... l'époque, je disais aussi que c'était pas un si bon retour pour Quinn Hughes.
Moi, je trouve que dans les circonstances... Parce que c'est toute une question de circonstances. Robert Thomas, il est encore signé. Là.
C'est ça.
Les Blues sont pas obligés de s'en débarrasser.
Alors, ça augmente sa valeur? Il y a un bon contrat en plus?
C'est sûr que ça augmente sa valeur. Parce que le point, c'est que les Canucks étaient obligés de se débarrasser de Quinn Hughes. Fait qu'ils ont eu quand même un bon retour dans les circonstances. Ils ont l'équivalent de 4 choix de premier tour.
Michael Hage, Ryan Backer, puis un choix de premier tour pour Robert Thomas, tu le fais-tu?
J'y pense.
Bon,
je pense que je le ferais. Mais...
Un choix top 5 là-dedans.
Mais c'est,
ouais, t'as un, ouais, mais, t'as un faux top 5 puis t'as un top 20.
Là-dedans, là, t'as pas trois choix top 15.
Michael Hage joue comme un choix top 15.
Okay, puis le Canadien, son choix va-tu être top 15?
Ça se balance avec le cinquième choix David Reinbacher.
David Reinbacher.
Tu fais une loi dans la moyenne.
Mais ça, c'est deux, c'est pas trois.
Non, non, David Reinbacher, il n'y a pas une valeur d'un espoir top 15.
Mais non.
Arrête ça, là. Il y a de la misère à jouer, là. Puis il ne progresse pas, là. Les autres DG sont pas caves, là. Et regarde aussi les games, ils ont du scouting professionnel.
Ouais. Ben là, c'est problématique qu'on ait 2 ans et demi remis du repêchage, puis on dit que Ryan Backer n'est même pas un choix top 15.
Non, mais là, ça, c'est.
Et tu fais un redraft, il sort combien?
Pas top 15.
Non.
Problématique.
Puis je te confirme que Carter Gauthier l'a dépassé. Ça, je te le confirme. Puis tu le sais déjà. Là. Au moment où on se parle, Michael Hage est celui dans les trois morceaux que tu m'as dit qui a le plus de valeur.
Ouais.
C'est vrai.
Puis même là, c'est à considérer. C'est pas trois choix top 15. Tu comprends?
OK. Let's agree to disagree.
Toi, t'es en train de me dire que Ren Barker, il a une plus grosse valeur que Michael Hage.
Non.
Bon, mais pourquoi tu m'ostines d'abord?
Parce que c'est trois choix top 15, presque.
Presque. Trois choix top 15. C'est presque.
Ouais.
Bon, ah, t'as assez, là.
C'est bon, ça.
Barry Trotz. Mm. Il a décidé de... Pas de démissionner là, mais éventuellement, il ne se plaît plus dans
c'était
ses fonctions.
C'était bizarre pareil.
Mm. Drôle timing.
Pourquoi il annonce ça s'il y a pas... Il aurait pu attendre de trouver son remplaçant, je trouve, pour annoncer.
Mm. Mais c'est parce que ça va amener une drôle de dynamique à la date limite quand même. Mm. On dirait qu'il n'y a plus les coups des franges, même s'ils disent que c'est le cas. Tu sais, demain matin, là...
Tu vas pas échanger Romani aussi demain matin?
Non, c'est ça.
C'est impossible. Impossible.
Même parce Ryan O'Reilly. Pensez-y bien.
Ben, j'ose croire que Ryan O'Reilly, il pourrait le faire quand même, parce que la fenêtre, il faut que tu t'apprennes pendant 4 heures.
Si Bergevin arrive avec les prédateurs, il va le vouloir, Ryan O'Reilly. Bergevin va t'acheter.
Let's go. Hey, faut juste faire les séries. Ah, si on fait les séries, tout peut arriver.
On est good, on est good.
On a Youssef Saros, tout peut t'arriver.
On est good.
Mais honnêtement, tu fais des blagues, là. Mais c'est sûr et certain que les prédateurs, c'est un poste qui est extrêmement en demande. Pensez-y deux secondes, là.
Une organisation... très stable.
Il n'y a pas de taxes.
Une ville qui est bien le fun.
Extrêmement stable. Puis, tu regardes dans les dernières années, là, un peu. Je vais regarder pour... OK, il faut revenir à 2018 pour la dernière fois que les Prédateurs n'ont pas repêché en première ronde.
C'est ça.
Sinon, à chaque année, on a des gros espoirs. C'est sûr qu'on a échangé des Askarov à travers ça, puis ces espoirs-là sont plus nécessairement encore avec l'équipe. Mais tu as encore des gars comme Joachim Kamel, Matthew Wood, Tanner Molendijk, Felix Nilsson, Yegor Sourin, Teddy Stiga, Brady Martin, gars. Cameron Reed, Ryke Early. T'as plein de gars encore.
Au c'est des bons espoirs, là.
Ouais. T'as quand même
une bonne espoir. C'est mon espoir préféré.
Le fermier.
Le fermier Ryke Early, Tim Martin.
Il y a des mains de soie.
Mais c'était intéressant. Puis là, non seulement t'as des actifs sur la glace, puis dans les munitions à venir, le climat. No tax.
Oui, c'est ça, là.
Ouais.
C'est quand même, mettons,
une
là,
bonne place.
Belle place pour élever une famille, mais c'est une belle place Buffalo, pour un célibataire aussi. Là, honnêtement, c'est niaiseux, mais...
Nashville, c'est hot.
Nashville, moi, si je suis un directeur général, hey, je voudrais tellement d'aller
Hugo,
là.
T'avais pas croisé David Poyle quand t'es
allé oui, j'ai une photo avec David Poyle à l'aéroport à Toronto.
Ça, c'est là dans le podcast.
Je vais la mettre dans le podcast, c'est sûr.
Mais ouais, puis ça va être intéressant à suivre, mais c'est des gros souliers à remplir quand même, Barry Trotz, puis quand même, c'est bon d'avoir admis que, ouais, regarde, je suis vraiment un bon coach, là. Je vais aller au temps de la renommée, mais DG, c'est pas ma tasse de thé.
Mais tantôt, tu parlais de Daniel Brière, puis tu disais qu'il avait pas juste fait des bons coups. Barry Trotz, je viens de le dire, il a pas sacrifié l'avenir, mais il a essayé de soigner sur le marché des joueurs autonomes. Et là, tu hypothèques quand même la santé financière de ton équipe. Puis là, ben, tu vas peut-être être obligé, éventuellement, d'échanger des choix pour liquider des contrats. Stamkos va mieux, c'est vrai, mais on s'entend quand même que le gros circuit qui a tenté il y a deux ans, ça a été un échec.
Un coup d'épée dans l'eau.
Ouais.
Non, exactement. Puis, est-ce que vous avez le sentiment, mettons, de le voir partir, c'est comme le fait de ne pas assumer ses torts puis de ne pas
essayer de réparer? Non, parce que je pense qu'il respecte trop Barry Trotz.
À cause de son historique puis de ce qui s'est passé.
Tu sais, il y a peut-être même un peu de ça. Il s'est peut-être fait pointer la porte. Hey, Trotz, regarde. Hein? Ben, la porte est là. Là. Tu sais, c'est peut-être, à l'amiable de.
Ouais, genre, ouais,
trop
ouais.
de respect pour ce que tu as accompli avec nous dans la franchise. Puis honnêtement, je pense qu'il aimait juste pas ça. Il a juste l'air d'être un gars d'action, de coaching, puis d'être dans le moment présent. Alors que directeur général, il faut quand même que tu laisses évoluer les choses avant de procéder à des mouvements, tu sais.
Oui, puis c'est un bon point que tu amènes. Puis à mon souvenir, le départ de David Poyle, il était pas un peu impromptu aussi. On s'attendait pas à ça.
Ben, en fait, on le savait un petit peu d'avance parce qu'il était au repêchage. Puis souvenez-vous, tout le monde l'avait applaudi lorsqu'il a passé
C'était à Nashville en plus. Là.
C'était à Nashville, effectivement.
Effectivement, c'était là, je pense.
Exact.
Chanceux.
Quand même.
OK, qu'est-ce que vous avez comme radar cette semaine, les gars?
Mon radar, les gars, on parlait du Lightning un peu plus tôt à l'émission, mais une des grandes raisons du succès de l'équipe, faut pas le nier, c'est Andrei Vasilevskiy, qui, à ses 16 derniers matchs, a 15 victoires, aucune défaite et une défaite en temps supplémentaire.
Il est invaincu en temps réglementaire en 16 matchs.
Invaincu en temps réglementaire en 16 matchs. on retrouve le Vasi des beaux jours. Et honnêtement, c'est vraiment cool à voir aller. On dirait qu'il avait perdu un peu de sa couleur. Mais c'est venu aussi dans les... Là, je dis les moments sombres. On va mettre les moments sombres entre guillemets là, du Lightning, mais on était quand même bon, on était quand même dans les conversations. Mais là, Vasi a vraiment repris du poids de la bête. Il est excellent. Il est redevenu le Vasi dominant de 20-21-22 qu'on a vu là.
C'est qui le meilleur goaler de la ligue selon vous?
Vasilevski. Sorokin deuxième.
Sorokin deuxième. Ouais. C'est fou, oh. Hein, il n'y a pas si longtemps. Patrick Roy n'aimait pas Ilya Sorokin puis faisait jouer Simeon Varlamov.
Ouais, c'est vrai. Sorokin, ouais, il fait partie de ça.
J'ai les odds.
Brendan Bossy?
De la ligue actuellement?
Actuellement, là.
Bossy, je le mets pas là-dedans. Il est bon, là. Okay. Il est très, très bon.
Plus que 26
là.
Matchs.
Mais il est parce très, que là, très chambranlant.
Il est sur une bulle incroyable.
Il est pas sorti de Hamburglar.
Ouais, j'écoutais la game justement contre les Sénateurs l'autre jour. Là. Il t'a fait des arrêts. Là.
Ouais, des arrêts fous là, sur le 3 contre 1. Genre.
Les odds en ce moment pour le Vezina, c'est Sorokin, Vasilevski, puis loin derrière Thompson, là, encore plus loin derrière Gibson, Bossy, Swayman, puis on est parti. Là. Okay. Mais c'est vraiment entre Sorokin puis Vasilevski en ce moment.
Intéressant, intéressant. Oli, vas-y donc avec ton radar du jour.
Ben justement, parlant de gardien, on a eu un drôle match entre les Capitals et les Red Wings plus tôt cette semaine. Bon, Logan Thompson est blessé. Pendant ce match-là, Charlie Lindgren s'est blessé.
Ouais, en prolongation.
Il a quand même fini par rester dans le match. Et là, bon, les Capitals menaient, mais les Red Wings ont égalisé d'une façon tellement bizarre. Il y a une rondelle qui a rebondi dans le trou du photographe où il installe sa caméra pour prendre des photos.
Le fameux trou de Jeff Petrie avec le petit
exact.
Ouais.
Exactement. Exact. Elle a rebondi là-dedans, elle est rentrée dans le filet, ça a créé l'égalité. Finalement, les Capitals ont quand même été capables de gagner ce match-là en tir de barrage. Malgré la blessure à Lindgren, c'était beau à voir, là, ses coéquipiers l'aidaient puis tout. Mais hey boy, le photographe devait se sentir petit dans ses shorts.
Puis on l'a vu après.
Oups.
Ouais, on l'a vu après. Il sentait mal le pont.
Ben, c'est surtout le moment, hey. Tu sais. Il restait, je vais de mémoire, là, mais je pense qu'il reste 40 secondes à faire à troisième. C'est comme ça que les Red Wings créent l'égalité. Puis, partisan du Canadien, évidemment, t'es comme Colin, c'est pas un point nécessaire que de toi ramasse.
C'est ça.
Ça fait partie du jeu. Je vais avec les Islanders de New York. Je sais pas si vous avez vu la séquence. Bo Horvat joue la rondelle dans le coin de la patinoire. Il frappe un oiseau.
Ouais.
Il y a un oiseau pas rapport qui est là sur la glace.
Ah, c'est weird ça. Il y a des endroits qui t'es comme. Des fois, tu vois des oiseaux dans des lieux publics, puis t'es comme, comment il s'est ramassé ici?
Vous souvenez-vous, il y a quelques années, à San Antonio, au basket, il était réputé pour avoir des chauves-souris.
Ouais, les chauves-souris, ça, j'ai
dit. Comment ça rentrait là?
Manu Ginobili, il l'avait frappé au vol, puis il l'avait attrapé avec sa main.
Ouais, c'est dangereux, ça, en plus, les chauves-souris, tu peux avoir des.
Rabies,
hein? Ouais, des maladies par rapport à ça. Ouais, la rage, notamment.
La rage.
Ouais, c'est ce rabies,
ouais,
exact.
Ouais, c'est ça.
Exact. Non, je sais. C'est toujours fou. On dirait que. C'est pas la première histoire qu'on a eue. Ah non, c'était à Boston, Luc Gélinas qui avait fait le saut parce qu'il y avait des rats durant son, son intervention. C'était drôle, ça.
Ça, c'est très, très bon.
Ouais.
OK, j'ai entendu ton mot, mais j'ai pas entendu le tien. Tu l'as-tu dit?
Oui, je l'ai dit en début d'émission.
Yes. Ah, comme d'habitude, évidemment.
Oui, j'ai dit en début d'émission, mais j'ai attendu un peu plus.
OK. OK. Par contre, la semaine dernière, j'ai pas entendu ton mot.
J'étais parti.
Il l'a dit dans son événement, puis hier.
Exact.
Puis même, là, je veux t'entendre. Hugo a dit son mot, mais en anglais. Est-ce que ça compte?
Non. Attends, correction. Parce qu'après ça, j'ai fait de la traduction.
Ah oui?
Je l'ai dit direct après, traduction. Aigle chauve, je l'ai dit.
Ah, OK, parce que j'ai juste entendu bald eagle.
Ouais, je l'ai dit tout de suite après.
Il est tellement bon, Hugo.
Je savais que tu allais jouer ces lignes.
J'étais là, j'ai entendu Eagle. Moi.
Ouais.
OK, très bon. Très bon. Allons voir justement la semaine passée qu'est-ce qu'on avait comme mot. Hugo avait aigle et j'avais manchot.
Hey, en ce moment, le trait de Birubé, il prend des conférences de presse. Il ressemble à un bald eagle, là, un aigle chauve. C'est fou. Là.
On dirait qu'il s'est fait un trop gros facepalm dans
exact,
le front.
Exact.
La force
d'écouter. Il est toujours là. Il est toujours capable de faire des points et de trouver une manière de te scorer. C'est impressionnant, sérieusement.
Ben, il serait capable de faire produire un manchot. Pour vrai,
ouais,
là,
pour vrai.
McDavid, il... Alors voilà, c'était nos mots de la semaine passée. J'espère que vous avez apprécié le podcast et j'espère que vous allez être en mesure de trouver nos mots de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les gars, avec les Jeux olympiques qui sont sur le point de commencer.
Ouais.
Ça va être très bon. On va surveiller ça. On prend pas de pause du côté du podcast. On continue à vous divertir. Et si vous voulez avoir du contenu supplémentaire, Radar LNH, tout dans un mot, sur notre compte Instagram. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.